En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 28 novembre 2006, sous la coupole du palais de l'Institut de France, s'est déroulée la séance publique annuelle de l'Académie des sciences. Chaque année, au mois de novembre, comme les autres académies de l'Institut, l'Académie des sciences organise une séance solennelle. Canal Académie vous propose d'entendre la diffusion de cette séance exceptionnelle, au cours de laquelle vous pourrez entendre le discours d'Édouard Brézin, président de l'Académie des sciences, la présentation par Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de Peter Goldreich, lauréat de la grande médaille de l'Académie des sciences cette année, la réponse de Peter Goldreich et une lecture par Jean Dercourt et Jean-François Bach, tous les deux secrétaires perpétuels à deux voix, du palmarès des Grands Prix 2006. Retrouvons à la tribune sous la coupole Jean-François Bach, Édouard Brézin et Jean Dercourt.
Monsieur le chancelier de l'Institut, Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs. La séance annuelle de l'Académie des sciences, consacrée au prix scientifique, est un moment privilégié pour contempler l'incessante progression des sciences et pour s'interroger sur les conditions qui permettent à celles-ci de s'épanouir. Il se publie chaque année, nous dit-on, de l'ordre d'un million d'articles scientifiques dans le monde, peut-être plus encore. Excès, sans aucun doute. Il n'est pas rare que des contributions soient découpées en petits morceaux afin d'allonger des listes de publications, opération simplissime en autant de couper-coller. Combien d'articles, même pas faux, pour reprendre la phrase assassine de Wolfgang Pauli. Si les plagiaires qui se servent d'une photocopieuse, aussi bien pour écrire que pour lire, sont rares, et en général pris la main dans le sac et définitivement décrédibilisés, la paraphrase est fréquente et difficile à détecter, à moins d'être située au cœur même de la discipline considérée. L'Académie s'intéresse à ces questions de publication, d'archives électroniques directes, d'accès ouvert, open access, et de bibliométrie. Et elle y reviendra en mai prochain par un colloque international organisé par le secrétaire perpétuel Jean-François Bach. Néanmoins, si les excès décrits avec complaisance par les sociologues de la science existent, s'il arrive même que certains n'hésitent pas à franchir la ligne irréversible en science qui sépare l'honnête homme du fraudeur, notre connaissance rationnelle du monde et des mécanismes qui le régissent ne cesse de progresser. Si vous en doutiez, permettez-moi de citer quelques progrès récents, glanés un peu au hasard dans l'actualité scientifique. Certes, je ne peux éviter le risque d'être abscon qu'en étant superficiel. Que l'on me pardonne, mon choix ne sera guidé inévitablement que par ce que je suis capable de comprendre, c'est-à-dire une infinitésimale fraction de cette immense production. Il y a tout juste un an, ici même, Madame Le Doirin, secrétaire perpétuelle, maintenant honoraire, évoquait devant nous la découverte et les perspectives de l'interférence de l'ARN, cette méthode qui permet de réduire au silence un gène en empêchant la traduction de l'ARN messager en protéines. Un phénomène nouveau, non prévu par les connaissances de la biologie moléculaire en 1998, nous disait-elle. Ces mécanismes d'interférence sont importants pour la défense contre les virus ou la régulation de l'expression des gènes. Le jury Nobel décernait d'ailleurs le mois dernier son prix de médecine et physiologie à deux des pionniers de cette méthode, Andofa et Craig Mellor. Je ne suis certes pas capable de commenter les perspectives de cette méthode, mais nos confrères biologistes nous assurent que les applications attendues en recherche fondamentale ou en médecine peuvent être considérables. C'est ainsi que cette interférence de l'ARN a permis d'inhiber l'expression de gènes viraux dans des cellules cancéreuses, celle des gènes des hépatites A ou des hépatites B, l'inhibition de la réplication virale dans la rougeole et bien d'autres applications encore que je serais bien incapable de même simplement évoquer devant vous. Quoi qu'il en soit, les potentialités semblent considérables. L'un de nos confrères biologistes me disait récemment qu'il pensait que grâce à cette technique, nous disposerions un jour d'autant de médicaments nouveaux que tous ceux que nous possédons aujourd'hui. J'en viens maintenant à un article soumis pour publication le 25 octobre 2006, il n'y a même pas un mois, juste un mois, par une équipe de l'ENS Paris, ENS Lyon, commissariat à l'énergie atomique, suivie d'ailleurs par une autre équipe grenobloise. Ces physiciens ont observé pour la première fois la génération d'un champ magnétique dans un écoulement turbulent de sodium liquide. Une dynamo spontanée apparaît au-delà d'un seuil de turbulence élevé, bifurcation spontanée en présence de bruit. De plus, leurs observations, encore préliminaires, montrent qu'il existe différents types de régimes, incluant en particulier des renversements aléatoires de la polarité du champ. De telles études, bien sûr, ont été entreprises pour comprendre l'origine du champ magnétique terrestre, ce champ qui oriente nos boussoles et nous protège des rayons cosmiques, aussi bien que des orages magnétiques solaires. C'est l'un des grands problèmes ouverts de la science, dont même Einstein, pourtant bien loin de cette discipline, avait signalé l'importance. Les géophysiciens pensent que ce champ est engendré par un océan de fer liquide, fluide conducteur de l'électricité en mouvement constant. Au contact de la graine, ce cœur solide de la Terre à température de l'ordre de 5000 degrés, des gigantesques et incessants tourbillons, nourris par les forces de Coriolis, se forment dans la couche liquide qui entoure le cœur. Ces mouvements complexes engendreraient le champ terrestre par un processus appelé effet dynamo. Les géophysiciens nous disent également que ce champ magnétique fluctue, parfois se retourne complètement, pôle nord et sud de la Terre s'échangeant. De tels événements, enregistrés dans les roches anciennes, semblent aléatoires, avec un espacement de l'ordre de 300 000 ans entre deux retournements successifs. La discipline du géomagnétisme et du paléomagnétisme dispose ainsi d'une datation précieuse fournie par ces retournements. L'expérience modèle dans le sodium liquide peut permettre de préciser ces mécanismes très délicats. Je signale également à ce propos un article apparaître incessamment d'une équipe de l'Institut de physique du globe, conduite par nos confrères Courtillot et Lemoelle, qui s'interroge sur les corrélations entre le champ magnétique terrestre et le climat, ouvrant une direction de recherche nouvelle intéressante en climatologie. Autre sujet récent, le Congrès international de mathématiques, qui a lieu tous les 4 ans. Il s'est tenu en août dernier à Madrid et a décerné l'une des 4 médailles Fields à un jeune mathématicien français talentueux, Wendelin Werner, auteur de nombreux travaux en théorie des probabilités. Mentionnons par exemple, mais ces techniques, parmi les résultats qu'il a obtenus avec ses collaborateurs, la détermination de la dimension fractale du bord d'un mouvement brownien plan. Les processus de Loewner stochastique sur lesquels il a travaillé. Loewner est un mathématicien d'origine tchèque disparu aux États-Unis en 1968. Ont aujourd'hui beaucoup d'applications en physique statistique, la percolation, les marches aléatoires, les modèles de polymères. La compréhension mathématique de ces modèles, tantôt justifiant rigoureusement des conjectures des physiciens, tantôt apportant des résultats complètement nouveaux, est à l'origine de développements rapides qui se poursuivent dans cette discipline. Quoi qu'il en soit, cette médaille souligne encore une fois la qualité et la vitalité de l'école mathématique française. Je voudrais en venir maintenant à la cosmologie, discipline aujourd'hui aussi bien expérimentale que théorique. Cette branche de la science est née réellement avec la relativité générale, cette théorie que Einstein construisit en 1916 après une décennie de dur labeur. On connaît l'histoire, Einstein chercha immédiatement une solution décrivant un univers statique et très désappointé de constater qu'il n'en existait pas, car les forces de gravité conduisait à une contraction inéluctable, il modifia sa théorie pour arriver à cette immuabilité de l'univers qui lui paraissait aller de soi. « La plus grande bêtise de ma vie », déclara-t-il quelques années plus tard, lorsque Hubble découvrit à la fois l'existence d'autres galaxies et puis que celles-ci s'éloignaient les unes des autres à des vitesses d'autant plus grandes qu'elles étaient plus éloignées les unes des autres. C'est l'expansion de l'univers, c'est-à-dire l'espace lui-même qui ne cesse de gonfler comme une patte qui lève. Remontant le temps, l'hypothèse d'une période initiale où l'univers était très dense et très chaud, infiniment même si l'on en croit les équations de la physique classique, devenait naturelle. Cette hypothèse du Big Bang fut fort discutée jusqu'à la découverte en 1963 par Penzias et Wilson du rayonnement fossile prédit bien des années auparavant par Gamow. Celui-ci, analysant les conséquences de cette singularité initiale dont les astrophysiciens nous disent aujourd'hui qu'elle est éloignée de nous d'environ 13,7 milliards d'années, avait compris que peu après la phase initiale chaude, le rayonnement devenait trop peu énergétique pour pouvoir interagir avec la matière. Nous devions donc baigner dans un rayonnement de corps noir à très basse température, c'est-à-dire d'un infrarouge très lointain. Les mesures de ce rayonnement de corps noir, bien étudiées depuis 1963, la température est identifiée, environ moins 270 de nos degrés ordinaires, omniprésent dans l'univers. Ces mesures sont l'un des outils les plus puissants de la cosmologie contemporaine. Le prix Nobel de physique 2006 a été attribué à l'équipe à l'origine du satellite COBE, suivi de WMAP, qui ont mesuré les petites fluctuations de la température de ce corps noir, fluctuations de l'ordre du 100 millième de degré, dans différentes directions dans l'univers. L'existence de ces fluctuations était nécessaire pour comprendre la formation des galaxies. Sans elles, notre monde ne serait qu'un peu de matière répandue uniformément dans tout l'univers. Il faut bien quelques grumeaux pour former les galaxies et leurs étoiles. Signalons que seul le scénario du Big Bang permet de reproduire en détail le spectre de ces fluctuations. L'Europe, l'Agence spatiale internationale, va lancer en mars prochain un satellite nommé Planck qui permettra d'étudier avec plus de précision ces fluctuations. Ceci devrait permettre de préciser les différentes hypothèses sur l'inflation de l'univers dans sa phase primordiale et de comprendre la formation des structures observées. Les astrophysiciens ont constaté également que l'expansion de l'univers s'accélère, données récentes. Cela implique de manière un peu ironique que c'est la théorie modifiée d'Einstein, celle à laquelle il avait renoncé après les découvertes de Hubble, qu'il faut appliquer. Les mesures indiquent en effet qu'il y a un coût énergétique à étendre l'espace, baptisé constante cosmologique. C'est une énergie sans matière, une énergie du rien en quelque sorte, appelée énergie noire, et l'accélération de l'expansion implique que celle-ci est responsable de 70% de toute l'énergie de l'univers. La physique quantique n'a aucun mal à produire une énergie du vide, mais l'estimation la plus simple à laquelle elle conduit est faute d'un facteur 10 puissance 120. Énorme problème posé à la physique contemporaine, le plus grave dont j'ai jamais entendu parler. Le commissariat à énergie atomique a inauguré vendredi dernier, 23 novembre, un grand instrument destiné aux neurosciences, Neurospin. Neurospin contiendra après achèvement un ensemble d'instruments consacrés à l'IRM fonctionnel à haut champ, allant de 3 à 11,7 Tesla. Un Tesla, c'est 10 000 Gauss. Le champ de la Terre, c'est 0,4. Et même 17 Tesla pour des études précliniques. Ce centre associera des neurobiologistes, des spécialistes des sciences cognitives, des psychologues, des linguistes, des cliniciens, parmi lesquels nos confrères Denis Le Bihan et Stanislas Dehaene, qui démontrent chaque jour que cette imagerie permet, comme ils le disent, de voir penser. Ces hauts champs permettront d'atteindre une sensibilité bien supérieure à celle des instruments en service aujourd'hui, et l'importance des résultats attendus est évidente. C'est en 2007 également que va entrer en fonctionnement le grand collisionneur de Hadron, connu sous le sigle anglais de LHC. La machine européenne qui se construit activement au CERN dans le tunnel de 27 km de circonférence qui existe à la frontière franco-suisse depuis plus de 20 ans. Le tunnel existe, mais la machine se construit. Le modèle standard qui régit toutes les interactions entre particules élémentaires, à l'exception de la gravitation, c'est-à-dire les interactions électrofaibles et nucléaires, est l'un des plus grands triomphes de l'histoire des sciences, la grande œuvre du dernier quart du XXe siècle. Superbe édifice, ne reposant que sur des considérations de symétrie, cette magnifique construction n'a reçu jusqu'à présent que des confirmations expérimentales éclatantes. Or, tout se passe comme si ce bel édifice à étages n'avait pas d'escalier. Il manque une particule indispensable pour s'élever dans cette construction. Elle n'a encore qu'un nom, le boson de Higgs. De plus, quelle que soit la beauté de cette construction, les concepts théoriques que nous avons impliquent qu'à plus haute énergie, c'est-à-dire lorsqu'on se rapproche encore un peu plus des processus qui dominaient l'univers primordial très chaud, la symétrie devait être encore plus grande que celle que nous connaissons. Quel paradoxe ! Le modèle théorique a trop de succès, un trop bon accord avec l'expérience, les physiciens attendent désespérément qu'il soit enfin mis en défaut. De surcroît, les essais théoriques pour prendre en compte les fluctuations quantiques du champ de gravitation, qui s'appelle la théorie des supercordes, impliquent au minimum une symétrie bizarre entre les deux types de particules que nous connaissons, fermions et bosons. cette symétrie, absente de notre monde quotidien, devrait être présente, là aussi, à plus haute énergie. Elle implique une sorte de monde miroir de celui que nous connaissons. Chacune de nos particules familières devrait être accompagnée d'une autre espèce opposée, encore inconnue. Au photon devrait être associé un photino, à l'électron, un sélectron. Le LHC, cette machine en construction, devrait être en mesure de répondre à beaucoup de ces questions, boson de Higgs, supersymétrie, et qui sait peut-être voir quelques indications sur l'existence des dimensions supplémentaires de l'espace qu'implique la théorie des cordes. Je vais arrêter là cette énumération de nouvelles scientifiques récentes, conscient que j'ai omis, par ignorance le plus souvent, et aussi par manque de temps, bien des sujets dont j'aurais aimé vous parler, certains au sein même de ma propre discipline. Je suis certain que nombre d'entre vous se demandent en m'écoutant à quoi tout cela nous sert. Je ne vais pas reprendre ici le discours mille fois rebattu sur les découvertes de la microélectronique, des lasers, sur les acquis de la biologie depuis la double hélice de l'ADN, sur l'imagerie médicale, sur le World Wide Web inventé au CERN pour les besoins de la physique des particules, sur les perspectives des nanosciences, etc. Car il faut être singulièrement myope pour ne pas voir que c'est à la compréhension la plus fondamentale des mécanismes qui réagissent la nature que nous devons tout cela. Mais ces découvertes n'ont pas changé seulement nos technologies. Elles régissent aussi nos modes de pensée, notre appréhension du monde. Je n'en prends qu'un exemple. Les découvertes qui nous ont contraints à admettre que nous sommes plongés dans une histoire. Je dis bien contraints, car à toutes les étapes, nous l'avons refusée. Histoire du vivant, histoire de l'univers, histoire de notre planète. Toutes ces découvertes ne sont pas simplement destinées aux spécialistes de ces disciplines. Nul qui s'interroge sur le sens de la destinée humaine ne peut les ignorer. Du scientisme, dira-t-on, et la raison n'explique pas tout. Bien entendu, la connaissance rationnelle du monde est limitée, très limitée. Mais je refuse d'écouter ceux qui prétendent qu'ils savent où sont ces limites, qui en ont fixé arbitrairement, par un acte de foi ou d'irrationalité, la position. La science avance, et si nous connaissons bien aujourd'hui les dangers que donne la possession des outils qu'elle fournit, c'est par plus de science et non par ignorance que nous pouvons espérer résoudre quelques-uns des problèmes de notre planète, l'épuisement des ressources fossiles, les grandes pandémies, les inadmissibles inégalités. Combien de fois le mythe d'Icare a-t-il été rappelé aux scientifiques ? Vous allez vous brûler les ailes en vous approchant de la lumière. Mais écoutons aussi le grand entomologiste Edward Milson qui préfère dire « Voyons plutôt à quelle altitude nous pouvons voler avant que le soleil ne fasse fondre la cire de nos ailes. » Oui, la science est bien la seule méthode qui nous ait été donnée pour appréhender l'univers auquel notre sort est attaché. Merci. Monsieur Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de la première division, va nous présenter le lauréat de la Grande Médaille 2006 de l'Académie des sciences.
La Grande Médaille 2006 de cette Académie est décernée à Peter Goldreich, professeur au California Institute of Technology et à l'Institute for Advanced Study à Princeton. Peter Goldreich est un théoricien généraliste de l'astrophysique. La diversité des domaines dans lesquels il a apporté une contribution majeure est stupéfiante. Il a marqué profondément les sciences planétaires et l'astrophysique par ses résultats fondamentaux et sa vision profonde pour la compréhension de la rotation de la planète, de la dynamique des anneaux planétaires, du comportement des pulsars, les masses serres astrophysiques, les bras spiraux des galaxies et les oscillations du Soleil. Son travail fondateur sur l'électrodynamique des pulsars a permis de mieux comprendre leur rayonnement et la nature de leur atmosphère. Dans les années 70, alors que la conquête spatiale était en pleine expansion, il a véritablement fondé l'école de la dynamique planétaire. pour toute une génération de chercheurs. Pour ne citer qu'un exemple avec ses collaborateurs, Peter Goldreit a apporté de nombreuses impulsions fondamentales à la théorie des anneaux planétaires. Il convient de remarquer non seulement la diversité de ses intérêts, mais également le fait qu'il soit considéré comme un des principaux experts des différents domaines dans lesquels il a travaillé. Ses succès ont été reconnus à travers son élection à l'Académie nationale des États-Unis dès l'âge de 33 ans et par les récompenses les plus élevées de l'Astronomical Society. Peter Goldreich.
Please excuse me because I don't speak French. I'm going to have to speak in English. Actually, in a very special dialect of English, which reflects my birth. I was born on Bastille Day in 1939 in the French hospital in New York City. But I'm afraid that is my main connection with your country. I'm very pleased to receive this great honor. This is quite a fine ceremony. All my family, or my living part of my family, is here to observe this. I hope they're enjoying it as much as I am. Thank you very much.
J'appelle Monsieur Grivet. S'il veut bien, merci Monsieur Grivet, puisque c'est la première fois que ce prix est remis, le remettre lui-même aux lauréats qui nous sont décrits par Monsieur Dercourt.
Le prix est décerné à Isabelle Schwinn, directrice du groupement de recherche Système d'information phénologique pour l'étude et la gestion du changement climatique au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, qui dépend du CNRS. Isabelle Schwinn sera chargée de désigner le titulaire d'un contrat postdoctoral couvert par ce prix. Son programme scientifique s'attache à l'étude des interactions entre changement climatique, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, tant pour les approches expérimentales et théoriques que par des modélisations. Ces travaux ont évalué quantitativement l'importance de la synchronisation du développement de la végétation au cours de l'année avec des conclusions climatiques à la fois sur son fonctionnement et sur sa répartition géographique. Elle coordonne un groupe de recherche dont le but est d'élaborer une base de données phénologiques pour la France et de constituer un réseau d'observation à l'échelle du territoire national. Isabelle Schwinn.
Nous passons au prix France Télécom, décerné à M. Gérald Bastard, que nous appelons maintenant.
Le prix est décerné à Gérald Bastard, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Pierre Aigrin, à l'École normale supérieure à Paris. L'activité scientifique de Gérald Bastard montre un meilleur niveau, comment une compétence théorique, à savoir la représentation des états quantiques électroniques dans les solides, peut engendrer à la fois des avancées de sciences fondamentales et un fort développement des applications grand public. L'utilisation de son modèle simple et pertinent, appelé des fonctions enveloppes, adaptées aux semi-conducteurs, est l'outil de base de nombreux ingénieurs et physiciens travaillant au développement actuel et futur du monde de la communication. Chercheur mondialement reconnu, distingué par de nombreux prix aux États-Unis et au Japon, où j'ai également travaillé. Il anime cette vaste communauté scientifique et est un élément de référence. Gérald Bastard.
J'ai enseigné pendant beaucoup d'années, et je salue ici mon ami Gérald Bastard. Le prix Marcel Dassault.
Le prix est décerné conjointement à Jean-Pierre Le Breton, ingénieur et scientifique au sein de l'Agence spatiale européenne. Daniel Gauthier, directeur de recherche émérite au CNRS à l'Observatoire de Paris. Et Tobias Owen, professeur à l'Université d'Hawaï. Leur prix leur est décerné pour une contribution majeure à l'exceptionnel succès de la mission Cassini-Huygens vers la planète Saturne et son satellite Titan. Le 14 janvier 2005, après 8 années d'un voyage de plus d'un milliard de kilomètres, la sonde européenne Huygens se posait à l'heure choisie et avec précision sur le sol de Titan, après avoir été largué du vaisseau Cassini, le plus massif de ceux jamais lancés dans le système solaire. Les données et images transmises de ce monde de méthane révèlent dans une ressemblance étonnante avec la Terre. Les conditions du système solaire primitif. L'Agence spatiale européenne et la NASA se partagent cette réussite où le rôle des lauréats a été majeur. Jean-Pierre Le Breton, Daniel Gauthier, Tobias Owen.
Le prix Jacques Herbrand est décerné à Monsieur Maxime Dahan, laboratoire de physique de l'École normale supérieure.
Chargé de recherche au CNRS, donc au laboratoire Castel-Brossel de l'École normale supérieure à Paris. Jeune physicien de grand talent, Maxime Dahan a exploré plusieurs phénomènes quantiques qui ont donné lieu à de nombreuses implications. Il a ouvert la voie à une méthode très spéciale de mesure des forces atomiques. Il a interprété et développé les propriétés optiques des nanocristaux directement déterminées par les lois quantiques. Il a réussi à insérer ces nouveaux objets au sein des cellules vivantes et de suivre leurs trajectoires individuelles pour accéder à des processus biologiques de grande importance, comme le passage de l'influx nerveux dans une synapse, ou encore le fonctionnement in vivo de certains moteurs moléculaires. Maxime Dahan.
Est-ce que Madame Monique Mégy est parmi nous ? Bonjour madame, si vous voulez bien, c'est vous qui remettrez le prix Gérard Mégy, notre regretté Gérard Mégy qui a été fondé en 2005. Le lauréat est monsieur Édouard Barre.
Édouard Barre est professeur titulaire de la chaire de l'évolution du climat et de l'océan au Collège de France à Paris. Les travaux de recherche d'Édouard Barre portent sur le fonctionnement du système océan atmosphère, cryosphère, sur des échelles de temps allant de quelques siècles à plusieurs millions d'années. Il reconnaît des climats des derniers millénaires. Avec son équipe, il a mis en évidence en particulier 4 points que je signale maintenant. Le premier, il existe des périodes de refroidissement abrupt de l'océan Atlantique Nord en liaison avec la débâcle d'icebergs au cours de la dernière déglaciation, il y a 18 000 ans. Deuxièmement, ces refroidissements sont associés à des ralentissements du Gulf Stream. Troisièmement, la montée du niveau de la mer depuis 20 000 ans a découvert de brusques variations de ce niveau à des taux supérieurs à 1 mètre par siècle. Enfin, les modulations du taux de C14 dans l'atmosphère terrestre en réponse aux fluctuations magnétiques du Soleil et du champ magnétique terrestre ont été mises en évidence. Édouard Barr.
Je cède la parole au secrétaire perpétuel de la deuxième division, M. Bach, qui va nous présenter en premier la lauréate du prix Lansbury.
Le prix Richard Lansbury est un prix franco-américain décerné conjointement par l'Académie des sciences des États-Unis et de France. Il est attribué cette année à Mme Catherine Dulac, professeure titulaire à l'Université de Harvard. Après avoir identifié puis cloné, sous la direction de Nicole Le Douarin, le gène d'une molécule essentielle de la différenciation de la glie dans le système nerveux, elle a rejoint en 1992 le laboratoire du professeur Richard Axel à l'Université Columbia de New York. Elle réussit à y mettre au point une technique permettant la construction de banques de cDNA à partir d'une cellule unique de l'épithélium olfactif. Grâce à cet exploit remarquable, elle put identifier puis cloner une série de récepteurs pour les odorants de l'organe voméronasal de la souris, qui est l'organe sensible aux phéromones. Plus récemment, elle a identifié un canal ionique qui est indispensable à la manifestation de l'agressivité chez les souris mâles. Elle nous a d'ailleurs montré dans un remarquable exposé fait récemment devant notre compagnie que l'invalidation du gène de ce canal entraînait une disparition de l'agressivité chez les mâles, sans néanmoins faire disparaître leur comportement reproducteur. Madame Catherine Dulac.
Le prix de la Fondation AGF Institut de France.
Le prix AGF Institut de France est décerné à Simon Weinobson. Simon Weinobson a cloné le génome du virus de l'immunodéficience humaine, le virus du sida, et a publié en 1985 la séquence nucléotidique de ce génome. Il a ensuite réalisé des études remarquables montrant la variabilité génétique extraordinaire du virus. Ses travaux actuels sont centrés autour de l'établissement d'un vaccin atténué contre le sida, une œuvre remarquable, essentielle tant par ses implications fondamentales que pour ses applications à la prévention et au traitement du sida. Simon Weinobson.
Le prix Jean-Pierre Lecoq.
Le prix Jean-Pierre Lecoq est décerné à Didier Mazel, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur. Les travaux de Didier Mazel ouvrent des perspectives nouvelles sur la recherche d'agents antibactériens. En particulier, ses études sur le gène de la déformylase ont montré que ce gène était une cible très privilégiée pour la découverte de nouveaux antibiotiques. Plus récemment, Didier Mazel s'est intéressé aux intégrons, qui représentent des structures dans lesquelles des gènes de résistance aux antibiotiques sont situés à côté, en tandem, de gènes d'intégrase. Il a décrit le premier super-intégron ancestral du vibrion du choléra et a montré que ce gène contenait de multiples facteurs d'adaptation et de virulence. Didier Mazel.
Nous en venons au prix de la Fondation franco-taïwanaise.
Le prix est décerné conjointement à Serge Lefranc et à Chen Shutsu. Serge Lefranc est professeur à l'Université de Nantes, où il dirige l'Institut des matériaux, qui porte le nom de notre regretté confrère Jean Rouxel. Tien Chu-Su est professeur à l'Université nationale de Taïwan, Chiao-Tung. Il est également vice-chancelier de l'Université Système. Ces deux chercheurs éminents ont travaillé dans la science des matériaux. Ils ont réalisé des travaux très originaux, en particulier décrit les propriétés optiques et optoélectroniques de matériaux très divers qui incluent les polymères luminescents, les nanoparticules, les nanotubes et les cristaux liquides. Leur coopération a été tout à fait exemplaire dans l'esprit du prix. Ils ont dirigé en commun des étudiants doctorants et post-doctorants. Ils ont dirigé en co-tutelle des thèses et publié de nombreuses publications en commun. Serge Lefranc et Chen Chu-Tsu.
Nous revenons à la première division avec le prix Victor Nourrit, prix de l'Institut de France.
Ce prix est décerné à François Golz, professeur à l'École polytechnique à Palaiseau. Les travaux de François Golz portent sur les équations cinétiques liées au problème de rentrée dans l'atmosphère des engins spatiaux. Il s'agit d'une part d'établir une propriété de régulation des solutions de ces équations et d'autre part de montrer que toute solution fait converger vers une solution de Leray les équations de Navier-Stokes. En collaboration avec Jean Bourguin et Claude Bardoz, il a étudié des problèmes de billard qui permettent de comprendre l'apparition de phénomènes irréversibles. François Golz.
Je crains que ces billards ne soient pas ce que vous croyez. Le prix Dolomieu.
Le prix Dolomieu, fondé par le Bureau de recherche géologique et minière, est décerné à Michel Treuil, professeur à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Michel Treuil est un géochimiste, spécialiste de réputation mondiale des éléments en trace. Il les a analysés par activation neutronique. Ceci sur des suites volcaniques, il a déterminé la nature de leurs sources situées dans le manteau supérieur et les processus de différenciation magmatique qui ont donné naissance à toute cette variété de roches. Cependant, il a développé des diagrammes de Treuil, c'est ainsi que nous les appelons maintenant, utilisé en routine dans le monde entier. Il a appliqué la géochimie quantitative à l'étude des eaux souterraines. Son rôle a été éminent dans le développement de la géochimie européenne et française. Michel Treuil.
Le prix Alcan.
Ce prix est décerné à Hervé Duval, chef de travaux au laboratoire de génie des procédés et matériaux à l'École centrale de Paris. Le thème des recherches principales d'Hervé Duval, qui présente un intérêt industriel crucial, est la filtration de l'aluminium liquide. En effet, d'éventuelles inclusions d'alumine présentes dans le métal ont un effet néfaste sur sa résistance mécanique dans toutes les applications, le boîtage comme la construction aéronautique. Pour conduire ces recherches, Hervé Duval a conçu un dispositif expérimental de simulation qui utilise la vélocimétrie de particules par laser. Hervé Duval.
Le prix Emilia Valori
est décerné à Marie-Paul Pileni, professeur à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Marie-Paul Pileni a joué dès la fin des années 80 un rôle de pionnier dans l'élaboration de monocristaux dans les auto-organisations en système 2D, voire 3D. constituant ainsi de véritables supracristaux formés de nanoparticules monodispersées. Ces travaux ouvrent ainsi la voie à de nouvelles propriétés physiques. Elle a réalisé une telle prouesse expérimentale par la maîtrise de la chimie physique des systèmes organisés des micelles diverses utilisés comme des nanoréacteurs. Marie-Paul Pileni.
Le prix Aimé Poisson.
Le prix est décerné à Frédéric Guichard, directeur scientifique et cofondateur de l'entreprise DXO Labs à Boulogne. Après avoir réalisé des travaux remarquables en traitement de l'image, Frédéric Guichard a décidé de se mettre au service de l'industrie française. Grâce à une démarche originale de recherche et de développement, deux entreprises, Poséidon et DXO, dont il est le directeur scientifique, ont atteint une renommée internationale. Par exemple, Poséidon produit un équipement de surveillance automatique des piscines par vidéosurveillance et détection automatique d'incidents. De nombreuses vies humaines ont été sauvegardées grâce à Poséidon. Par exemple, DXO poursuit le meilleur post-traitement d'images numériques pour les photographies grand public. Frédéric Guichard.
Nous revenons à la deuxième division pour le prix Charles-Léopold Meyer.
Le prix est décerné à Bruce Beutler, professeur à l'Institut Scripps à La Jolla, en Californie. Bruce Beutler est un des plus grands immunologistes contemporains. Ses travaux éclairent d'un jour nouveau les mécanismes de l'immunité innée contre les agents infectieux. C'est lui qui a d'abord caractérisé, puis cloné, une des plus importantes des cytokines, le facteur nécrosant les tumeurs. C'est lui également qui a démontré le rôle des récepteurs Toll chez les mammifères. Plus récemment, il s'est engagé dans un programme de grande envergure de mutagénèse non dirigée, Forward Genetics, chez la souris, programme grâce auquel il a pu identifier de nouvelles voies de signalisation des récepteurs de l'immunité innée. Bruce Beutler.
Le prix du Commissariat à l'énergie atomique.
Le prix du Commissariat à l'énergie atomique est décerné à Antoine Danchin, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pasteur. Pionnier de la génomique bactérienne, Antoine Danchin a cloné les adénylcyclases bactériennes. Il a plus précisément étudié la structure et démontré la relation avec l'effet pathogène des adénylcyclases des germes du charbon et de la coqueluche. Il a également séquencé le génome de Bacillus subtilis. Ses travaux récents montrent des relations très importantes entre l'architecture de la cellule et l'organisation de son génome. Antoine Danchin.
Le prix de l'Institut français du pétrole.
Le prix de l'Institut français du pétrole est décerné à Pierre Dizneuf, professeur à l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Pierre Dizneuf est un spécialiste internationalement reconnu de la catalyse homogène pour la chimie fine. Il a décrit le concept de nouvelle espèce catalytique métal-vinylidène. Il a décrit des procédés d'activation permettant la création de catalyseurs de métathèse d'alcène. Autant de travaux qui contribuent de façon remarquable au progrès des connaissances sur les méthodes de synthèse et sur la compréhension des réactions d'activation. Pierre Dizneuf.
« Le prix de la Fondation pour la recherche médicale.
Le prix PCL de cardiologie de la Fondation pour la recherche médicale est décerné à Pierre Ducimetière, directeur de recherche au centre de recherche INSERM à Villejuif. Pierre Ducimetière est le pionnier et le grand spécialiste français de l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires. Grâce à une étude multicentrique prospective, il a pu déterminer les facteurs de risque à l'origine des cardiopathies ischémiques. Ces travaux ont permis de mieux comprendre les causes de la mort subite de l'adulte. Pierre Ducimetière.
Revenons à la première division avec le prix Sophie Germain, prix de l'Institut de France.
Ce prix est décerné à Michael Harris, professeur à l'Institut de mathématiques de Jussieu à l'Université Denis Diderot à Paris. Michael Harris a obtenu des résultats fondamentaux sur les problèmes de rationalité des formes automorphes et des valeurs spéciales des fonctions état correspondantes. Le résultat le plus fameux de Michael Harris est la démonstration en collaboration avec Richard Taylor de la conjecture de Langlands locale dans les corps P adidiques, qui est une des pierres angulaire du monumental programme de Langlands. Michael Harris.
Le prix Jaffé de l'Institut de France.
Ce prix est décerné à Françoise Masnou-Seyouz, directrice de recherche au CNRS au laboratoire Aimé Cotton à Orsay. Ce chercheur est distingué pour l'importance des contributions théoriques à l'obtention de la caractérisation de molécules froides. Elle examine les phénomènes de photoassociation permettant à une paire d'atomes froids entrant en collision de se transformer après interaction avec un ou deux faisceaux laser en une molécule froide. Françoise Masnou-Seyouz.
Le prix Étienne Roth du Commissariat à l'énergie atomique.
Ce prix est décerné à Sylvain Levasseur, post-doctorant à l'ETH de Zurich. Sylvain Levasseur est le pionnier de la géochimie isotopique de l'osmium dans le cycle externe de la Terre, qu'il a contribué à mesurer dans l'eau de mer et à expliquer ainsi, en identifiant la composition des différentes sources, il a évalué à 30 000 ans le temps de résidence de l'osmium dans l'océan. Son travail est une référence internationale incontestée. Sylvain Levasseur.
Le prix des Landes est décerné à M. Olivier Lefebvre. Est-ce que M. Lefebvre est là ? Oui, merci.
Le prix décerné à M. Olivier Lefebvre, directeur du laboratoire d'astrophysique à l'Observatoire de Marseille, a développé et mis à disposition de la communauté européenne d'un spectrographe de nouvelle génération sur le très grand télescope de l'ESO construit au Chili, permettant d'obtenir simultanément 1000 spectres de galaxies. Il a contribué, grâce à de grands sondages spectroscopiques, à la mise en évidence de l'histoire de la formation des étoiles, de l'évolution des galaxies et de celle des grandes structures dans l'univers. Olivier Lefebvre.
Le prix Servan.
Le prix est décerné à Laurent Véron, professeur au laboratoire de mathématiques et physique théorique à l'Université François Rabelais à Tours. Laurent Véron a obtenu un ensemble impressionnant de résultats concernant les singularités de solutions positives d'équations aux dérivées partielles elliptiques non linéaires. L'analyse vient d'être achevée après 15 ans d'efforts en association avec d'éminents probabilistes tels que Dinkins ou Le Gall. Ce travail monumental constitue l'un des plus beaux chapitres de l'interaction entre la théorie des équations aux dérivées partielles et les probabilités. Laurent Véron.
Retour à la deuxième division pour le prix Cino del Duca de cancérologie.
Le prix Cino del Duca de l'Institut de France de cancérologie fondamentale est décerné à Madame Fatima Mejta Grigoriou. Madame Mejta Grigoriou, qui est chargée de recherche CNRS à l'Institut Pasteur, a montré que les stress oxydatifs dans les tissus ou les cellules pouvaient conduire à une angiogénèse à l'origine d'une néovascularisation qui peut avoir des effets très délétères dans les tumeurs en augmentant leur potentiel malin. Les travaux de Madame Mejta Grigoriou ouvrent la possibilité de traiter les tumeurs par des agents antioxydants en inhibant l'angiogénèse tumorale. Madame Mejta Grigoriou.
Le prix du gaz de France.
Le prix du gaz de France est attribué à Michel Magot, professeur à l'université de Pau et de la Dour. Michel Magot a réalisé des travaux extrêmement originaux sur les bactéries sulfato-réductrices présentes à l'état naturel dans les aquifères profonds. Il a décrit plus de 300 espèces de ces bactéries qui sont actives dans les conditions de pression et de température régnant à plusieurs centaines de mètres sous la surface de la Terre. Il a montré que ces bactéries étaient capables de dégrader les hydrocarbures aromatiques en conditions totalement anoxiques. Michel Magot.
Le prix Jaffé de chimie de l'Institut de France.
Le prix est décerné à Jean-Louis Pierre, professeur à l'université Joseph Fourier de Grenoble. Jean-Louis Pierre est un spécialiste international de la chimie supramoléculaire et bio-organique. Parmi ses travaux très originaux, il faut retenir ceux concernant le transport et l'assimilation du fer par les organismes vivants et sur les modèles biomimétiques de cuproenzyme redox. Monsieur Jean-Louis Pierre.
Le prix de l'État de biologie intégrative.
Le prix de l'État est décerné à Hervé Santenac, directeur de recherche INRA, dans l'unité de physiologie végétale moléculaire à Montpellier. Hervé Santenac a consacré son œuvre scientifique à la nutrition minérale des plantes. Il a identifié un canal potassique qui joue un rôle central dans le chargement du xylème, le tissu végétal qui constitue le bois. Il a également montré que des canaux potassiques intervenait de façon cruciale dans l'absorption du potassium dans les racines à partir du sol et dans l'excrétion du potassium dans les parties aériennes. Hervé Santenac.
Revient à première division pour le prix de mathématiques Alexandre Johannides.
Le prix est décerné à Gérard Besson, directeur de recherche au CNRS à l'Université Joseph Fourier à Grenoble. Gérard Besson est un spécialiste de la géométrie ergodique. À l'interface entre la géométrie riemannienne, les systèmes dynamiques et la théorie ergodique, sa contribution avec Gilles Courtois et Sylvain Gallois l'ont permis de magnifiques théorèmes de rigidité. On lui doit également un délicat travail d'analyse de la preuve de Petrelman d'une des conjectures de Poincaré. Gérard Besson est l'un des géomètres les plus créatifs dans ce domaine très actif, mêlant analyse et géométrie riemannienne. Gérard Besson.
Le prix Yvan Péchès.
Le prix est décerné à Jean-Noël Chazalviel, directeur de recherche au CNRS à l'École Polytechnique à Palaiseau. Dès le début, Jean-Noël Chazalviel s'est imposé comme un chercheur de grande classe. Sa carrière est un cas exemplaire de pluridisciplinarité réussie. Après des résultats très originaux concernant les surfaces des semi-conducteurs, il est amené à utiliser des techniques d'électrochimie et devient tout naturellement un physico-chimique à part entière. Ses contributions vont des sujets les plus fondamentaux jusqu'aux applications les plus industrielles, comme la purification des eaux usées par photo-électrochimie. Jean-Noël Chazalviel.
Le prix Léon Luteau.
Ce prix est décerné à Marc Tardy, professeur au laboratoire de géodynamique des chaînes alpines à l'Université de Savoie à Chambéry. Les travaux de terrain de Marc Tardy traitent de la genèse des systèmes montagneux. Ils apportent une importante contribution au processus de croissance des continents par accrétion d'arcs insulaires et par développement de plateaux ou d'îles océaniques. Et ceci fut fait au Mexique, au Canada occidental et dans les grandes Antilles. Par ailleurs, il a été l'animateur d'un groupe scientifique qui a implanté un réseau GPS permanent le long d'un profil sismique traversant les Alpes, et il a ainsi contribué à la caractérisation et à la quantification de la formation et de la géométrie des Alpes occidentales franco-italiennes. Marc Tardy.
Je vais dire le nom du suivant. Le prix Anjuta Winterklein est décerné à Monsieur Hendrik Hilhorst,
professeur au laboratoire de physique théorique à l'Université Paris-Sud à Orsay. Ses contributions sont importantes en physique statistique. En nous limitant à la dernière période de travaux, citons la résorption de problèmes de réaction-diffusion et la solution exacte, originale, d'un problème concernant la ségrégation des espèces réactives. Très récemment, il a étudié la statistique des cellules de Voronoi dans le plan. Il a pu infirmer ainsi, ou confirmer parfois, certaines conjectures antérieures. Hendrik Jan Hilhorst.
Le prix Doitteau Émile Blutet.
Le prix est décerné à Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche au CNRS et chercheur à l'Observatoire de Paris-Meudon. Jean-Pierre Luminet est un astrophysicien de grande qualité, spécialiste de relativité et de cosmologie. Mais il est doué d'un talent littéraire exceptionnel. Il met sa créativité au service de la communication auprès du grand public, mais aussi des décideurs du monde économique, contribuant ainsi à une meilleure insertion de la science dans notre société. Auteur du célèbre ouvrage « Les trous noirs », il est actif dans plusieurs grandes expositions où la science rejoint la poésie et la philosophie. Jean-Pierre Luminet.
Retour à la deuxième division pour le prix Foulon de biologie intégrative. La lauréate, Madame Laborel, je crois, ne peut pas être parmi nous. Le serait-elle? Non. Alors peut-être Monsieur Bach peut-il juste nous rappeler.
Oui. Madame Sandra Laborel est directeur de recherche CNRS à l'université Joseph Fourier à Grenoble. Elle a réalisé des travaux très intéressants sur l'évolution des friches et des prairies montagnardes et méditerranéennes. Et dans un remarquable effort de coopération internationale, elle a pu démêler les liens subtils qui existent entre la biodiversité, la stratégie de régénération des espèces et l'hétérogénéité des écosystèmes. Madame Laborel n'est pas là malheureusement, mais je pense que nous pouvons la féliciter.
Le prix Philippe Guy.
Le prix Philippe Guy et la médaille Marcelin Berthelot sont attribués au professeur Jacques Schulz, qui est professeur à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Le professeur Jacques Schulz est un... Le professeur Jacques Schulz est un spécialiste de la chimie, des surfaces et de l'adhésion. Il a réalisé des travaux très originaux permettant de mieux analyser la chimie des surfaces et des interfaces. Il a notamment apporté un nouveau concept, qui est le concept d'énergie de surface potentielle des polymères. Le professeur Jacques Schulz.
Nous en venons au prix Motard.
Le prix Motard est décerné à Dominique Ferrandon, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. Dominique Ferrandon a eu une contribution tout à fait majeure dans le domaine de l'immunité innée contre les agents infectieux. Utilisant le modèle de la drosophile, il a pu identifier de nouveaux gènes codant pour des récepteurs pour des ligands microbiens, ainsi que des gènes codant pour des molécules impliquées dans les voies de signalisation des récepteurs de l'immunité innée. Monsieur Ferrandon.
Prix Alexandre Ioannidès.
Le prix Alexandre Ioannidès est décerné à Michel Bornaz, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut Curie. Michel Bornaz est un grand spécialiste de la biologie cellulaire, et plus particulièrement de la duplication et de la polarité des cellules. Ses travaux sur le centrosome et les microtubules sont mondialement connus. Ses recherches les plus récentes ouvrent de nouvelles perspectives sur la découverte de nouveaux agents antitumoraux. Michel Bornaz.
Nous en venons maintenant à nos brillants étudiants et élèves, et j'appelle d'abord un premier groupe de 5 lauréats que sont Franck Lirzin, Charles-Henri Weimüller, Pierre Convert, Émeric Janet et Romain Blanchet. S'ils veulent bien venir jusqu'à nous, Monsieur Jean Dercourt va vous lire quels sont leurs mérites qui leur permettent d'être ici aujourd'hui.
Le mérite s'exprimera par des numéros. La médaille Laplace, médaille de Vermeil, est décernée chaque année par l'Académie à l'élève sortant premier de l'École polytechnique. Elle est attribuée à Franck Lirzin, né le 20 septembre 1983. Le prix Rivaux, les prix Rivaux, sont décernés aux 4 élèves sortis en 2006 de l'École polytechnique et entrés dans les numéros 1 et 2 dans le corps des mines et dans les corps des ponts et chaussées. Franck Lirzin, une fois de plus cité, Charles-Henri Weimüller, entré deuxième à l'École nationale supérieure des mines, Pierre Convert, entré premier à l'École nationale des ponts et chaussées, et Émeric Jantet, entré deuxième à l'École nationale des ponts et chaussées. Le prix de l'école centrale est décerné à Romain Blanchet, classé premier de sa promotion 2006 à l'École centrale des arts et manufactures.
J'appelle maintenant les lauréats de diverses Olympiades, nous allons y revenir, M. Benjamin Cellier, M. Louis Vera et Christophe Tassot, M. Simon Gourdin-Bertin, Bruno Le Floch, Benjamin Cellier, déjà appelé, mais qui est à deux titres parmi nous, vous allez le comprendre, Irène Valpurger, ainsi que Mademoiselle Suzanne Lannery.
Les Olympiades sont des compétitions nationales ou internationales organisées entre les élèves issus de la voie générale ou technologique du baccalauréat des lycées sous l'égide de l'Inspection générale de l'éducation nationale et souvent à l'initiative ou avec la collaboration de sociétés professionnelles, de sociétés savantes ou d'autres instances. L'Académie des sciences ou ses membres apportent souvent un soutien fort et des concours à ces compétitions. Ces concours n'existent pas encore dans toutes les disciplines. Les Olympiades de mathématiques ont couronné Benjamin Cellier, élève du lycée Pierre Béguin à Moirans. Les Olympiades de physique ont couronné un binôme du lycée Bellevue à Toulouse, Louis Vera et Christophe Tassot. Les Olympiades de chimie ont couronné Simone Gourdin-Bertin, élève au lycée Choiseul de Tours. Les Olympiades internationales, celles de mathématiques, ont couronné d'une médaille de bronze Bruno Le Floch, Benjamin Cellier et Irène Vadburger. Les Olympiades internationales de physique ont vu Suzanne Lannery, élève du lycée Louis-le-Grand à Paris, être déclarée meilleure candidate féminine.
Permettez-moi ici de féliciter ces jeunes gens brillants, nous dire tout le plaisir qu'ils nous font, mais également rappeler que leurs enseignants de physique et de mathématiques, ou de chimie, sont des gens qui sont des enseignants admirables, de ceux dont nous aimerions avoir beaucoup plus, des enseignants qui consacrent un nombre d'heures considérable à communiquer leur passion, à faire découvrir à ces jeunes gens comment on peut se préparer, réaliser des travaux expérimentaux et se préparer à des compétitions qui, aussi bien au plan national qu'international, sont fort rudes. Donc, je remercie également, je vous demande de remercier leurs enseignants à qui nous sommes reconnaissants. Nous avons maintenant des boursiers de la Fondation Rogissart-Sarrazin Vandevière. Il y a 6 boursiers, mais seulement 3 d'entre eux peuvent être parmi nous. Leurs noms sont Rémi Bello, Gwenaël Laurent et Monia Meshroub. Je les appelle pour venir jusqu'à cette tribune.
Les bourses de la Fondation Rogissart-Sarrazin-Vandevière ont été créées et sont l'un des objectifs de la très importante fondation dont je viens de citer le nom. En ce qui concerne les bourses, elles sont destinées à de jeunes étudiants ardennaises et ardennaises pour leur faciliter la poursuite de leurs études en première et deuxième année d'études supérieures. Ces bourses sont en effet de 2 ans. Parmi les candidatures présentées par les proviseurs des établissements concernés, les bourses sont attribuées par l'Académie à des élèves qui ont obtenu la mention très bien au baccalauréat, général ou technologique ou professionnel. Et ils ont ainsi une possibilité d'être dans la catégorie antérieurement distinguée. Nous le leur souhaitons.
La parole est au secrétaire perpétuel Jean-François Bach, qui va nous parler d'environnement et santé, d'idées reçues et de réalités scientifiques.
Monsieur le chancelier, madame le secrétaire perpétuel, messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, chères consœurs, mesdames, messieurs. Nous sommes tous conscients, même de façon intuitive, que notre santé dépend dans une large mesure de notre mode de vie et de notre comportement quotidien. Nous savons aussi qu'elle dépend de l'environnement qui nous entoure, avec la crainte confuse que les progrès de la technologie pourraient être à l'origine de nouvelles maladies. Au-delà de ce constat consensuel, les avis divergent sur l'appréciation des risques encourus et des mesures à prendre pour les éviter. La question est souvent compliquée par la connotation idéologique, voire politique, donné au débat. L'Académie des sciences est intéressée depuis de très nombreuses années à l'environnement. Un comité de l'environnement a été créé, présidé successivement par Maurice Tubiana et Michel Petit. L'Académie a émis plusieurs avis, en particulier sur les effets biologiques des faibles doses de radiation ionisante, sur les organismes génétiquement modifiés, ainsi que sur la charte de l'environnement, en soulignant le rôle essentiel qu'il convient de donner à la recherche et à l'innovation. La réflexion sur l'environnement est difficile, en premier lieu sur le plan scientifique, car l'interprétation des données est souvent incertaine, mais aussi et peut-être encore plus pour ce qui concerne la communication vers un public très intéressé par ces questions, mais parfois passionné au point de résister à une argumentation rationnelle. Mon propos n'est pas ici d'entrer dans le détail du débat entre le péremptoire de certains scientifiques et les préjugés d'une fraction du public. Je voudrais plus modestement, autour de quelques pathologies majeures, indiquer comment la collecte de données objectives scientifiques et leur interprétation rigoureuse peut contribuer à tracer des pistes d'action en dehors et parfois à l'opposé des préjugés. Les causes des maladies sont le plus souvent multifactorielles. L'hérédité et les facteurs génétiques jouent un rôle très important avec l'intervention habituelle de plusieurs gènes de prédisposition pour chaque maladie. Néanmoins, le taux de concordance pour une maladie entre deux vrais jumeaux qui ont pourtant les mêmes gènes ne dépasse pas le plus souvent 30 à 40%, ce qui indique l'intervention de facteurs non génétiques, que ceux-ci soient liés à l'environnement ou à des événements aléatoires, comme on en incrimine le rôle de plus en plus souvent à l'origine de certains cancers, en particulier chez les sujets âgés. L'environnement peut intervenir sous les formes les plus diverses. Il peut s'agir d'un comportement délétère, et nous pensons tous au tabac et à l'alcool. Il peut aussi s'agir d'éléments indépendants de l'individu, que ceci soit ou non associé aux activités humaines. C'est l'objectif de l'épidémiologie que d'identifier les facteurs de risque environnementaux sous toutes leurs formes. L'épidémiologie est une science en grand développement à l'interface des mathématiques, de la biologie, de la médecine, mais aussi des sciences humaines. Dans un rapport récent, coordonné par Alain-Jacques Valeron, l'Académie a montré et souligné la puissance des méthodes utilisables avec le recours possible à une modélisation mathématique. Les résultats sont parfois inattendus, à l'opposé des idées préconçues fortement ancrées dans le public. Il est certains cas où un facteur de l'environnement défini peut être incriminé avec une certitude raisonnable. L'exemple de l'intoxication aux métaux lourds en représente une bonne illustration. Il avait été remarqué au début du XIXe siècle qu'il existait souvent des comportements anormaux, bizarres, chez les chapeliers qui utilisaient quotidiennement du mercure pour la préparation du feutre. Certains se souviendront peut-être du chapelier fou d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Le rôle du métal, de la toxicité du mercure, apparut au grand jour après la catastrophe de Miramata. Une usine de plastique déversait d'importantes quantités de mercure dans la baie de Miramata au Japon. Les poissons ingérèrent le toxique et les habitants de la région furent lourdement contaminés avec plus de 1000 décès. Cette prise de conscience brutale conduisit à des études nombreuses qui permirent de définir les concentrations et les doses dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour éviter la contamination de sujets dans les mêmes conditions. Une approche du même ordre fut mise en œuvre pour l'intoxication au plomb, le saturnisme, que l'exposition provienne d'eau issue de canalisations anciennes ou d'émanations d'essence ou plus souvent de peinture riche en plomb. Le problème est beaucoup plus compliqué lorsqu'il s'agit de déterminer le risque associé à de faibles, voire à de très faibles doses d'un agent toxique. Si personne ne met en doute l'effet cancérigène des fortes doses d'amiante auxquelles sont exposés certains ouvriers du bâtiment, attestés par le nombre et la spécificité des cancers de la plèvre présentés par ces ouvriers, la question est beaucoup plus délicate quand il s'agit des doses faibles ou très faibles auxquelles sont exposés les sujets habitants ou travaillant dans des locaux contenant de l'amiante. Les études toxicologiques et épidémiologiques, même quand elles utilisent le recours à la modélisation mathématique, ne permettent pas de trancher de façon claire. Et pourtant, des décisions doivent être prises quant à la réfection ou à la fermeture des bâtiments en cause. Le problème se pose dans les mêmes termes s'agissant des faibles doses de radiation ionisante. La très faible irradiation émanant des examens de radiologie médicale, à peine supérieure à la radioactivité naturelle ou à l'irradiation cosmique, représente-t-elle vraiment un risque dangereux? Nous n'avons pas de réponse absolument certaine à cette question. S'agissant du problème plus général, de la cause des cancers, aucune étude sérieuse ne permet aujourd'hui d'affirmer le rôle de la pollution, hormis certains cas très rares. Nous avons cité celui de l'amiante, on pourrait également citer celui de rares cas de cancer d'origine professionnelle. De nombreuses études épidémiologiques ont été consacrées à la recherche d'un effet cancérigène éventuel de polluants chimiques originaires du sol, notamment des pesticides, de l'eau, de l'air ou d'éléments physiques très divers, comme les lignes à haute tension, les téléphones portables, les antennes. Hormis certains rapports positifs, isolés et non confirmés, aucune corrélation significative n'a été trouvée. Cela ne veut pas dire, pour autant, que la pollution ne puisse pas être à l'origine de cancers. Mais l'affirmer, comme on l'entend souvent dans les médias de façon un peu arrogante, il faut le dire, n'est pas acceptable. L'incertitude doit inciter à la modestie les scientifiques, mais aussi leurs détracteurs. Il est intéressant de noter sur ce sujet qu'un rapport récent de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le taux global des cancers liés à la pollution ne dépasserait pas 1%. L'accroissement de la longévité dans les pays industrialisés, encore 2 à 3 mois chaque année, est tout à fait remarquable. Elle indique à elle seule que la pollution n'a probablement pas d'effet délétère global sur la population. Elle n'exclut pas, cependant, que la pollution puisse avoir un effet néfaste sur une fraction d'individus particulièrement sensibles ou exposés à un toxique. Le problème des effets pathogènes des polluants atmosphériques, en particulier d'origine automobile, est particulièrement sensible. L'idée reçue est que ces polluants pourraient être à l'origine de la plupart des maladies respiratoires, peut-être du cancer de poumon, et pourrait expliquer l'augmentation très spectaculaire de la fréquence de l'asthme observée dans les pays développés depuis 20 à 30 ans. Il est exact qu'il existe une corrélation modeste, mais statistiquement significative, entre la concentration de certains polluants, en particulier les dioxydes de soufre et d'azote, les particules de diesel, certaines particules fines, et la fréquence des hospitalisations pour manifestations respiratoires. Cela un jour donné. De même, la mortalité est accrue de façon très faible, mais également significative, les jours de pic de pollution. Mais les études épidémiologiques n'indiquent pas de corrélation significative entre une exposition chronique à des doses modérées de polluants et les maladies respiratoires. En particulier, il n'y a pas de corrélation entre la fréquence de l'asthme et la pollution. Même si des asthmatiques avérés peuvent avoir les jours de pic de pollution, une aggravation de leur manifestation respiratoire, mais tout à fait transitoire, je le disais. Il faut donc chercher ailleurs l'explication de l'augmentation de la fréquence de l'asthme dans les pays développés. Peut-être toujours dans l'environnement, mais pas autour de la pollution. Il avait été remarqué dans les années 90 que l'augmentation de la fréquence de l'asthme dont je parlais était beaucoup plus nette en Allemagne de l'Ouest au niveau socio-économique élevé qu'en Allemagne de l'Est où la pollution était beaucoup plus importante. De là était née l'hypothèse hygiéniste selon laquelle l'augmentation de la fréquence de l'asthme et de l'ensemble également des maladies allergiques n'était pas due à la pollution mais à la réduction des infections. Et puis on s'est aperçu que le problème dépassait très largement celui de l'asthme. En fait, toutes les maladies par hyperimmunité, notamment les maladies auto-immunes, ont une fréquence augmentée dans les pays développés depuis 20 à 30 ans. Le diabète insulinodépendant d'origine auto-immune touche des enfants de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes, y compris des nourrissons, ce qu'on ne voyait jamais autrefois. La sclérose en plaques et les maladies inflammatoires de l'intestin sont devenues de véritables problèmes de santé publique. Comment expliquer l'augmentation de fréquence de toutes ces maladies qui ne sont pas liées à l'accroissement de la longévité? Un premier élément d'orientation vient de l'observation inattendue de l'existence d'un gradient nord-sud dans la fréquence des maladies auto-immunes. Gradient nord-sud qui se traduit par de différences importantes entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi au sein des continents européens et nord-américains. Le diabète et la sclérose en plaques, pour reprendre ces exemples, sont 3 à 4 fois plus fréquents en Scandinavie, en Suède, en Finlande, qu'en Espagne ou en Grèce. Et cette différence n'est pas liée à des facteurs génétiques, comme on aurait pu le croire en première analyse, mais bien à l'environnement local. C'est ainsi que si le diabète auto-immun est très rare, exceptionnel, en Chine et au Pakistan, sa fréquence augmente brutalement dès la première génération chez les enfants d'immigrés chinois en Californie ou pakistanais en Grande-Bretagne, atteignant la fréquence observée chez les enfants américains ou britanniques. Une analyse plus fine de la distribution de ces maladies fait ressortir qu'il existe une corrélation très significative entre la fréquence des maladies et les conditions sanitaires. Qualité de l'eau de boisson, chaîne du froid pour les aliments périssables, conditions de logement. Ce qui suggère le rôle protecteur des infections, le rôle protecteur perdu des infections, dans la mesure où l'on sait depuis longtemps que la fréquence des infections est très directement corrélée aux mauvaises conditions sanitaires. À partir de ces observations, il fallait montrer néanmoins qu'il existait un lien de cause à effet entre la réduction des infections et l'augmentation des maladies allergiques et auto-immunes. La réponse à cette question est venue de l'étude des modèles animaux de maladies auto-immunes expérimentales. Il existe ainsi, chez la souris, un modèle spontané de diabète auto-immun qui ressemble en tout point à la maladie humaine. Les souris NOD. Lorsque ces souris NOD sont élevées dans une animalerie aseptisée, la maladie touche pratiquement tous les animaux. Inversement, si l'on élève ces souris dans une animalerie que j'appellerais sale, eh bien la maladie n'est plus observée que chez une fraction d'animaux, même parfois chez aucun d'entre eux. Il suffit cependant de décontaminer les animaux sales en faisant naître les souriceaux par césarienne et en les plaçant en isolateur pour voir réapparaître la maladie dès la génération suivante chez quasiment 100% des animaux. De la même façon, il suffit d'infecter des souris NOD propres par des agents pathogènes divers, des bactéries, des virus, des parasites, pour complètement empêcher la survenue de la maladie. Ces observations ont d'importantes applications thérapeutiques. Il ne s'agit pas, bien sûr, de contaminer nos enfants par les infections aujourd'hui disparues, ni même d'abroger les règles élémentaires de l'hygiène. Faut-il rappeler que ces maladies infectieuses de nourrissons du nouveau-né représentaient la cause majeure de mortalité il y a encore une trentaine d'années? Il s'agirait plutôt de stimuler l'immunité de ces enfants par une vaccinothérapie adaptée comme on peut le faire aujourd'hui par des extraits bactériens et comme on pourra probablement le faire dans quelques années par des produits chimiques définis. Il restait à expliquer le mécanisme de l'effet protecteur perdu des infections sur les maladies auto-immunes et allergiques. Plusieurs mécanismes ont été évoqués. Le premier d'entre eux fait appel à une notion un peu abstraite, un peu ésotérique, qu'on appelle l'homéostasie lymphocytaire. Après une hémorragie importante, le nombre de globules rouges, à un moment abaissé, se corrige sous l'influence d'une hormone produite par le rein, qu'on appelle l'érythropoïétine, l'EPO, tristement célèbre par sa malheureuse utilisation chez certains sportifs. De même, après une déperdition de lymphocytes, les globules blancs qui sont spécialisés dans l'immunité non spécifique, le taux des lymphocytes revient à la normale sous l'influence de facteurs dits homéostatiques qui incluent là aussi une hormone, l'interleukine 7. Lorsqu'il y a des infections, lorsque le système immunitaire réagit contre les agents infectieux, les réponses immunitaires qui sont déclenchées contre les antigènes forts portés par ces agents infectieux vont consommer les facteurs homéostatiques dont on sait maintenant qu'ils sont nécessaires en fait à toutes les réponses immunitaires. On comprend dès lors qu'en cas d'infection, les réponses immunitaires qui pourraient normalement survenir contre les allergènes et les auto-antigènes ne se développent pas. Inversement, lorsque ces infections disparaissent ou se réduisent en nombre, les facteurs homéostatiques redeviennent disponibles pour ces réponses auto-immunes et allergiques qui sont alors stimulées. Le deuxième mécanisme fait appel à un concept également un peu abstrait qui est celui de cellules T régulatrices. On sait que toutes les réponses immunitaires, en particulier les réponses immunitaires anti-infectieuses, sont associées à la différenciation, à la production d'une sous-catégorie de lymphocytes qu'on appelle lymphocytes T régulateurs qui ont la propriété de supprimer les réponses immunitaires. On comprend dès lors que la réduction des infections va diminuer la différenciation de ces cellules T régulatrices et faire perdre le contrôle de certaines réactions immunitaires, notamment les réactions auto-immunes et allergiques. Je discuterai un troisième mécanisme plus inattendu et qui relève de la description par notre futur président Jules Hoffmann de récepteurs appelés TOL qu'il avait décrit chez la drosophile pour être un des éléments essentiels de la défense anti-infectieuse. La stimulation de ces récepteurs TOL chez la souris NOD, dont je parlais tout à l'heure, empêche la survenue du diabète. On peut donc imaginer que les microbes, ou certains microbes, qui sont porteurs de ligands reconnus par les récepteurs TOL, stimulent les récepteurs en question portés par les cellules d'immunité innée et protègent ainsi contre les maladies par hyperimmunité, peut-être par la production de cytokines immunosuppressives. Ainsi, les maladies infectieuses, qui représentaient depuis des siècles la principale cause de mortalité et de morbidité dans notre pays, nous protégeaient en même temps contre des maladies alors rares et mystérieuses que sont les maladies auto-immunes allergiques, aujourd'hui au premier plan. Peut-être faut-il voir à ce paradoxe apparent un effet pervers de l'évolution. Revenons au diabète. Il est frappant de voir que cette maladie augmente de fréquence dans ces deux types. le diabète de type 1, insulino-dépendant de l'enfant lié à une maladie auto-immune, mais aussi le diabète de type 2, non insulino-dépendant de la maturité d'origine métabolique. L'augmentation de fréquence du diabète de type 1 est probablement liée, nous l'avons vu, à la diminution de la promiscuité quasi symbiotique dans laquelle vivait notre espèce depuis l'apparition de l'humanité. On peut penser que l'augmentation de fréquence du diabète de type 2 pourrait découler de la disparition des famines auxquelles l'évolution nous avait préparés. Cette référence à l'évolution peut paraître inquiétante en première analyse, si elle signifie que le progrès socio-économique et le progrès technologique viennent déséquilibrer les conditions qui nous ont fait évoluer depuis des millénaires, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Il faut bien voir cependant que les maladies nouvelles que nous avons discutées sont globalement beaucoup moins sévères que les maladies en voie de disparition. À l'évidence, nous nous portons mieux et nous vivons beaucoup plus longtemps que dans le passé. En outre, il existe des solutions pour s'opposer à ces maladies émergentes. D'abord, l'approche conventionnelle pharmacologique, qui consiste sur la base de la compréhension des mécanismes des maladies, à trouver de nouveaux traitements guidés par la recherche scientifique en grande explosion. Il est possible, en fait, d'envisager les sources de progrès à différents niveaux. Les épidémiologistes nous apprendront de façon de plus en plus précise quels sont les facteurs de risque qui prédisposent aux maladies ou peuvent nous en protéger avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur les usages et les comportements. Les médecins, les biologistes, les scientifiques vont apprendre plus avant à démêler les facteurs génétiques et les facteurs de l'environnement. Les chimistes et les pharmacologues vont trouver de nouveaux traitements pour contourner ces effets délétères de l'environnement. Environnement et société, environnement et santé, un problème, un débat de société bien sûr, mais j'espère vous en avoir convaincu, également avant tout une problématique scientifique multidisciplinaire. Merci.
Mesdames, Messieurs, nous avons eu une après-midi où nous avons pu admirer beaucoup de jeunes talents et la séance est maintenant levée. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance solennelle de l'Académie des sciences du mardi 28 novembre 2006, durant laquelle vous avez pu écouter les discours d'Édouard Brézin, président de l'Académie des sciences, et ceux de Jean Dercourt et de Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de cette Académie.